Ils seront à 19h tout à l'heure sur la scène côté jardin. Ils sont avec nous dans le studio, en tout cas l'un de leurs membres, Hocus Pocus. Salut.
Salut, bonsoir, ouais.
Ça va? La route
Ouais,
était
très
bonne pour arriver
bien.
de jusque dans les contrées de
Voilà, et
Fleuref?
puis on est tout frais puisque c'est la première date d'une session là qui commence, qui se prolonge jusqu'à la mi-août. Donc voilà, une première date, c'est le lancement du truc, ouais.
Vous n'avez pas encore tourné cet été?
Si, on n'arrête pas depuis quasiment un an, mais je veux dire là, on a eu une semaine de off, donc on s'y remet, on est reparti pour une quinzaine de jours.
C'est votre première fois ici, Esperanza?
Ouais,
Et
pas la
alors?
première fois en Belgique, mais la première fois, bah, le cadre est magnifique. C'est vrai que quand on est arrivé ce matin, c'était plutôt cool quoi, de visiter le cadre et de voir ces scènes placées au milieu de cette abbaye. Donc voilà, très, très agréable.
Vous verrez, c'est superbe pour le public parce que derrière vous, en fond de scène, il y a toute la campagne belge comme ça, et c'est
J'ai
vrai
vu le
que
paysage,
c'est
ouais.
pas mal,
Et puis on peut surplomber le camping aussi,
hein.
qui est un peu plus bas, c'est assez
C'est une
sympa.
autre ambiance.
Ouais.
Oui, effectivement, c'est pareil. On va peut-être commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins, même si maintenant ça fait 10-15 ans déjà que vous existez, les origines du groupe?
Alors comme tu le dis, ouais, une quinzaine d'années, ça a commencé à deux potes d'enfance et au fil des années, le groupe s'est agrandi, le son a évolué aussi avec le temps. Donc voilà, d'un groupe de hip-hop plus traditionnel, on est arrivé à une formule beaucoup plus métissée, avec des inspirations soul, funk, jazz. Et aujourd'hui, on a trois albums nationaux et trois albums qui étaient sortis plus du côté autoproduction, entre 98 et 2003, quoi, voilà.
Et justement, dans les différentes interviews que j'ai lues et écoutées jusque maintenant, tu parles souvent d'une espèce de trilogie entre donc les trois albums qui sont sortis. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bah, ce qui symbolise un peu cette trilogie, c'est les chiffres qu'on retrouve dans les titres. Donc 73 touches, place 54 et 16 pièces, le dernier album. Et voilà, plus qu'une trilogie, moi je dirais que ça pourrait être considéré comme un seul et même album, puisque dans le son, dans la manière d'évoluer, c'est resté très très proche. On a juste essayé de creuser, d'affirmer notre état d'esprit, nos inspirations, et au fil du temps, voilà, ça a créé comme ça, un espèce de grand album, qui s'étire sur trois opus, mais ça reste dans une cohérence générale, ouais.
Avec un petit peu plus de sol quand même encore cette fois-ci.
J'ai l'impression que ce dernier album, il vient faire la synthèse entre ce qu'on avait fait sur 73 touches et ce qu'on a fait sur Place 54, c'est-à-dire peut-être le côté plus hip-hop, plus brut de 73 touches et le côté très world, ou en tout cas très ouvert de Place 54. Et là, on a fait la synthèse en y mettant un peu plus de soul aussi, dans 16 pièces. Donc voilà, on a, ouais, vraiment, c'est, j'ai l'impression qu'on a réuni tous ces univers. Ouais.
Et tu parles de hip-hop, tu as parlé un petit peu de rap tout à l'heure. Comment justement vous vous positionnez par rapport aux grands groupes français, on va dire, qui font du rap pur et dur, qui sont peut-être un peu plus rebelles, plus revendicatifs dans les textes notamment que vous?
Alors, je sais pas, moi, je me revendique hip-hop dans le sens où on utilise certains éléments qui sont propres à ce mouvement. Le DJing, le beatmaking dans la manière de faire des productions avec les samples, etc. Et puis, de mon côté, le rap à proprement dit. Après, c'est vrai que dans les messages et dans le fond des textes, ça se rapproche plus de la chanson française plus traditionnelle, avec le côté poétique et humoristique parfois, qu'a du rap hardcore, on va dire. Donc voilà, en ce sens-là, en effet, on s'inscrit pas dans le mouvement rap français tel qu'il est vu du grand public. Mais si tu creuses un petit peu, tu verras que dès le début de ce mouvement en France et ailleurs, il y avait aussi cette vogue plus positive et alternative, on va dire, du hip-hop, quoi. Il n'y a pas que le côté virulent et très hardcore. Ouais.
Vous avez des connexions quand même avec ceux qui font du rap, notamment dans les cités parisiennes?
Des connexions.
C'est des gens que vous croisez de temps en temps sur la route, ailleurs?
Ouais, ça nous est arrivé de partager la scène. Je sais que par exemple, un mec comme Sefyu, il kiffe la démarche d'Hocus Pocus parce que ces mecs-là ont aussi écouté le même rap américain que nous et ils voient les références qu'on utilise et les inspirations qu'il peut y avoir. Ils reconnaissent aussi l'honnêteté dans notre démarche et la sincérité, c'est-à-dire qu'on ne s'invente pas une personnalité, on fait un hip-hop tel qu'il nous correspond vraiment, sans s'inventer une histoire. Donc voilà, je pense qu'ils apprécient cette démarche tant qu'elle est vraiment honnête et sincère. Ouais.
Hocus Pocus est sur Radio Esperanza, Aurore.
Oui, donc l'énergie aussi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment propre aussi bien donc à ta musique qu'au groupe. comment c'est quelque chose, enfin, comment ça se développe? Je pense que quand vous avez commencé, la scène était peut-être un petit peu moins importante par rapport aux albums.
Ouais, c'est vrai que le tout début, alors là je remonte encore avant les albums 73 touches, on faisait pas de scène quoi, on faisait que des répétitions dans ma chambre et quelques petits concerts dans les MJC, mais c'était vraiment le tout début, c'était vraiment un hobby quoi, mais c'est cette passion qui a fait qu'aujourd'hui encore on existe. Et c'est vrai que la scène, ça a pris une tournure très très importante à partir du moment où on a des musiciens. Des instrumentistes qui ont rejoint la formation. Donc à partir de 2003, on va dire que ça a pris une vraie tournure live. Ouais.
Oui, donc c'est pas seulement les albums qui ont amené la scène, c'est plutôt le groupe qui se modifie en fait.
Moi, je pense que la scène a fait parler de nous plus que les albums. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont entendu parler d'Hocus Pocus au travers de la scène et sont venus aux albums dans un second temps. Parce que voilà, il y a une énergie, il y a une communication avec le public qu'on retrouve sur scène avec Hocus Pocus et qui est assez rare malheureusement dans le paysage de la musique actuelle. Ouais.
Et donc, c'est le dernier album en date, là, 16 pièces qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Finalement, il a été fait pour faire de la scène?
Alors non, il a été fait alors qu'on faisait de la scène. C'est la subtilité, c'est-à-dire qu'on était en tournée. Et cet album-là se fabriquait alors qu'on était déjà en tournée. Donc c'est cette influence et ces allers-retours entre studio et scène qui ont fait peut-être l'énergie qu'on a dans cet album et pour nous la facilité de jouer ces morceaux sur scène parce qu'ils ont déjà cette veine énergique et ces tempos plus soutenus que dans les albums précédents.
Et donc, avant la fin déjà de la réalisation de l'album, vous aviez déjà testé
Ouais.
certains morceaux
C'est-à-dire
en live.
qu'on a fait déjà une trentaine de dates avant même que l'album soit sorti, où on jouait 6 ou 7 morceaux de l'album, alors que les gens ne les connaissaient pas. Mais c'était marrant parce que il nous arrivait parfois de jouer et que les gens chantent les paroles, alors que l'album n'était pas sorti. Donc ça veut dire que les gens allaient voir les vidéos que les autres avaient postées sur YouTube avec leur téléphone portable et commençaient déjà à apprendre les morceaux et à rentrer dans l'univers du nouvel album alors qu'il n'était pas encore sorti. C'était assez étrange de voir les gens chanter ouais, les morceaux alors qu'ils n'existaient pas sur disque, quoi.
Et ça a influencé un petit peu la fin de l'album, les futurs morceaux?
Ah ouais, il y a des choses qui ont été modifiées par rapport aux réactions du public et par rapport à la manière dont les morceaux prenaient en live. Donc il y a des choses qui sont arrivées aussi par rapport aux répétitions qu'on faisait. Tiens, ça on pourrait l'ajouter sur l'album.
Et quoi par exemple?
Par exemple, dans la structure du morceau Putain de Mélodie, il y a des choses qui ont évolué par rapport à l'énergie qu'on voulait y mettre sur scène. Je sais plus. Il y a eu plein de petits détails. Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est des petits détails qui ont leur importance. Ouais.
Justement, sur le dernier album, il y a une chanson, enfin, peut-être celle que j'aime le plus, qui s'appelle À mi-chemin. Donc, avant l'interview, on a un petit peu discuté. Tu étais capable d'en faire enfin, tu voulais bien en faire un petit morceau. Peut-être tu peux faire quelque chose et comme ça,
Alors
après, on en
peut-être
discute.
un extrait du premier couplet,
Comme ça en impro, sans
oui, en a
guitariste,
cappella, on va le
sans
faire, on va le
problème.
faire à
Ah
cappella.
bah
C'est
alors.
quand même la grande classe.
Donc ça commence comme ça. Je suis entre les mots et les lignes, les notes et les singles. Racine et la cime, l'écran tactile et la mine. Le sous-sol et le prime time. Ma campagne est Paris by night. Entre le vieux pour les jeunes et le jeune pour les vieux. Entre connard et monsieur. Entre vous et tu. Entre tu et vous. Le drapeau blanc est entre tu et vous. Le poinçonneur des lilas et Rocking Squad. Je suis juste là, entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Entre mon home studio et Universal. Un smoking et un t-shirt sale. Yep. Entre le pote et le boss, l'artiste et le fils, l'homme et l'ex-gosse, l'ex-père et le novice. L'introverti et le MC entre Sylvain et Vincile. Donc voilà, c'est le
Oh,
cul
quand même,
entre deux
waouh!
chaises.
Ah, respect!
C'est quand même la grande classe. On a un pro sans guitare, sans rien, c'est quand même bien.
Vous reviendrez peut-être un peu plus tard si on arrive à trouver un
Voilà, si on
créneau.
arrive à
Hein, on
trouver
dit
un
aux
peu de temps, on
auditeurs,
viendra avec David, le guitariste, pour vous
revenez
interpréter
aux
quelques
alentours
titres.
de 21h. C'est pas encore totalement sûr, ça dépend des plannings, etc. Mais si on arrive à trouver le créneau, Hocus Pocus, ils reviendront en version un peu plus complète.
Ce qui est quand même hyper rare, on peut quand même le signaler, il y a des artistes qui viennent comme ça faire une interview et qui se proposent de revenir plus tard pour jouer. C'est quand même cool.
C'est pas mal. Vas-y.
Vas-y, à toi, dis-moi.
Non, je voulais savoir, on écoute un petit extrait justement du disque? Allez.
Allons-y.
Allez, David,
Le
fais-toi
dernier.
plaisir.
À mi-chemin entre
what you think you are.
À mi-chemin entre
what you think you are. Entre les mots et les lignes, les notes et les signes, les racines et la cime, l'écran tactile et la mine, le sous-sol et le prime time, ma campagne est bye bye night. Entre le vieux pour les jeunes et le jeune pour les vieux, entre connard et monsieur, entre vous et tu, entre tu et vous, le drapeau blanc et entre tu et vous, le poinçonneur des lilas et rocking squat, je suis juste là, entre l'oreille gauche et l'oreille droite, entre mon home studio et Universal, un smoking et un t-shirt sale, yeah. Entre le pote et le boss, l'artiste et le fils, l'homme et l'ex-gosse, l'expert et le novice, l'introverti et le MC, entre Sylvain et Vinci, à mi-chemin entre
what you think you are
et
what you really are,
à mi-chemin entre
what you think you are
et
what you really are.
Me voici seul dans mon lab, face à ma feuille blanche, chute libre comme d'hab et les mots comme seule branche. Louvois entre la paix et le gun, entre les hommes et Allah, entre le nombre et le 1. Alchimie couplée de taf et de fun, de graff et de feuilles, de baf et d'épreuves. Là c'est du somme dans la bouche des ministres, mon âme entre espoir et futur sinistre. Si tu voyais ces colères dans mon cœur, tu m'aimerais moins peut-être. Comprends, je t'invite au trip dans mon turf. On annonce mon heure, mais je crois qu'avant tu verras leur déroute au prompteur. Entre le discret, le clinquant, le brillant, je suis comme à la rue, je file pas la merde aux clients. La vie me l'a dit chill, elle est collante, surtout quand on pousse mal entre amour et mort violente. Entre le père et le fils que je suis, faire face aux tempêtes que je suis, en restant digne, accepter ses contrastes et ses rêves, qu'à la faveur de la nuit dans les étoiles on trace. Dans les étoiles on trace, on trace, on trace, on trace. À mi-chemin entre et
entre
et
entre
et
entre
et à mi-chemin entre.
What you think you are,
hey.
What you really are,
à mi-chemin entre.
What you think you are,
hey.
What you really are.
Je suis entre l'être humain et les objets, entre les sillons et les octets, avant et après, avant et après, concret et abstrait,
à mi-chemin
entre triangle, rond, croix, carré, et pomme Z, pomme C, pomme V, entre le réel et les pixels, mon gabarit et mes sapixels, canette écarlate et thé à la menthe, et merde, déjà entre 30 et 40, un portrait entre deux toiles à moi, entre deux doigts, un choix entre deux cases, pourquoi? À mi-chemin entre Cool Chain et Bruno Gainsbourg et Lucien, Abdoulaye et Oxmo, AKH et Philippe, Shuriken et Geoffroy, ou juste entre Vinci et moi, entre
what you think you are
et
what you really are.
À mi-chemin entre
what you think you are
et
what you really are.
À mi-chemin entre
what you think you are
et
what you really are.
On se retrouve donc en studio, on a la grande chance d'être avec Hocus Pocus, et donc on vient d'écouter un de leurs derniers titres, À mi-chemin.
Voilà, qu'il avait chanté avant, vu que notre ami David a trouvé le bon titre au bon moment.
Le talent à l'état pur, ce David. On va peut-être revenir un petit peu donc, sur donc, l'extrait qu'on vient d'écouter, À mi-chemin. Donc voilà, c'est vraiment, comme tu nous disais hors antenne, le fait d'avoir un peu le cul entre deux chaises, et aussi donc, la vision que les gens ont de vous, qui finalement est assez souvent assez erroné par rapport à la réalité.
Et même nous, ce qu'on vit, enfin les deux mondes qu'on côtoie, on va dire, c'est-à-dire le quotidien, la vie de Monsieur Tout le Monde, on va dire, et puis le côté scène où forcément les gens ont un regard particulier. Il y a le, c'est un peu le monde du rêve, quoi. On est là pour apporter, pour des, enfin, embarquer les gens dans un univers qui n'est pas de leur vie quotidienne. Donc c'est important qu'on joue aussi ce rôle du spectacle. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Le côté, voilà, le mec qui est dans son home studio à bricoler des sons, qui va faire ses courses au supermarché. Et puis à côté de ça, le gars qui est sur scène devant 10 000 personnes parfois. Donc c'est un décalage qui est assez intéressant à vivre, quoi.
La rock'n'roll attitude à la Prince, à la Johnny Hallyday, elle a fait son temps d'une certaine manière.
Je pense qu'il y a des artistes qui aiment rentrer dans ce jeu-là et je suis pas radicalement contre parce que ça crée aussi un univers. Moi, je suis fan d'artistes comme ça et
par
j'aurais
exemple,
pas envie de les voir au supermarché.
Par exemple,
un Prince ou un mec comme ça, quoi. en l'occurrence, c'est vrai que j'ai besoin de garder cette part de rêve. C'est pas des gens que j'ai envie de forcément rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est vraiment leur musique est liée au personnage. C'est important que ce soit une cohérence générale.
Mais pour toi, dans ta vie, tu as l'impression que ce serait trop pesant de jouer peut-être ce rôle-là?
Je pense qu'il y a des artistes dont la vie fait partie de l'œuvre. C'est le cas de Prince. Je pense que c'était aussi le cas d'un Michael Jackson. Enfin, voilà. Tout ce qui va autour du personnage, sa vie de tous les jours, ça fait partie de l'œuvre. Moi, c'est pas le cas, quoi. Je fais mes disques, on fait nos concerts, mais à côté de ça, on est des personnes tout à fait normales et tout à fait simples, on va dire. Mais notre vie de tous les jours, elle ne fait pas partie du concept artistique, on va dire.
Tu parlais de Michael Jackson, enfin, vous lui avez écrit un bel hommage, une belle chanson quand il est décédé. Au début, cette chanson, je pense, a vraiment été prise au premier degré comme simplement un hommage, un chouette hommage, mais un hommage. Et puis après, on a commencé à y trouver des revendications peut-être un peu plus politiques.
C'est marrant, je répondais hier à un mail sur MySpace d'un gars qui me disait « Ouais, je comprends pas, dans tous les articles, dans toutes les interviews, je lis 2506, c'est un hommage à Michael Jackson. » Et moi, quand je l'écoute, ce gars-là me disait, moi, quand je l'écoute, j'ai pas du tout l'impression d'entendre un hommage. Presque au contraire, j'ai un peu l'impression que c'est une vraie critique assez virulente des médias et de la manière dont ils peuvent s'emparer de certains événements, et en particulier certains événements spectacles, pour éclipser le reste de l'information. Et en effet, il a complètement compris le propos du texte, même si je lui disais qu'il y a une part de tendresse dans ce morceau pour le personnage, pour la vie, pour le monstre qu'il est devenu au fil du temps parfois. Mais c'est vrai que c'est plus un morceau qui parle des médias, de la manière dont on s'engouffre comme ça dans une actualité, que ce soit au niveau du foot. J'ai vécu exactement la même sensation au moment de la Coupe du Monde qu'au moment de la mort de Michael Jackson. C'est-à-dire cette espèce de sensation de trop, quoi, d'overdose de foot ou de mort de Michael Jackson. C'est vrai que quand on se jette dans un événement, on le quitte plus, quoi, j'ai l'impression.
En même temps, le parcours de l'équipe de France est assez rapide et ça peut occulter derrière les affaires de Sarkozy.
Puis c'est une petite mort aussi quand même.
Moi, j'ai l'impression que si, quelque part, malgré ce parcours éclair, on y a eu quand même le droit jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et ça a dû occulter, je pense, et ça occulte encore une part de l'information. Bon, aujourd'hui, il y a encore d'autres sujets qui viennent volontairement occulter certaines affaires. Mais voilà, c'est vrai que c'est une des astuces politiques et médiatiques du moment. C'est un peu de nous jeter la poudre aux yeux avec des informations très événements, très spectacles, pour qu'on oublie un petit peu ce qui se passe en parallèle, quoi.
Et ce thème de médias, justement, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même tout au long des différents
albums.
C'est
un des fils conducteurs, ouais.
Avec Géométrie, notamment, et 100 grammes de peur. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu ressens et que vous ressentez depuis longtemps.
Moi, disons que j'ai l'impression que c'est un des sujets que je vais mieux maîtriser, dans le sens où je suis amené à connaître l'envers du décor, à voir un petit peu comment ça se passe, les médias, parce que c'est pas si loin de l'univers de la musique. Par exemple, les contreparties publicitaires quand tu veux faire la promo d'un disque, etc. Et c'est vrai que politiquement, j'ai l'impression que ça marche un petit peu pareil. Donc tout ça, c'est un jeu un petit peu médiatique qui moi m'intéresse et à la fois me révolte parfois. Donc j'ai envie d'en parler parce que j'ai l'impression de maîtriser un petit peu plus le sujet que sur certains d'autres thèmes, quoi. Ouais.
Vas-y.
C'est un jeu dans lequel vous êtes plongé dedans quand même bien comme il faut, puisque finalement vous avez besoin des médias aussi.
Forcément, ouais. Alors après, on essaye de le faire intelligemment et jamais de manière racoleuse et d'aller à l'encontre de notre philosophie, on va dire. Donc on essaye de faire les choses de manière posée, toujours de garder un contact assez proche avec le public. Mais ouais, c'est vrai que ça a pas mal évolué les médias depuis ces dernières années. C'est devenu quelque chose d'assez flippant. Ouais.
Vous arrivez à trouver des espaces d'expression dans les médias traditionnels encore quand on est musicien, ou maintenant tout se passe par les réseaux plus alternatifs et les réseaux sociaux, etc.
Ça a été particulièrement difficile sur ce dernier album. Pour réussir à trouver sa place, que ce soit en télé, dans des radios nationales. Il y a toujours des radios indépendantes, locales, qui nous suivent et qui nous suivent depuis le tout début d'ailleurs. Donc ça, je leur passe un message au passage. C'est vrai que c'est un truc qui est super important pour nous. D'ailleurs, pour ne pas les citer, Universal ne travaille pas du tout, ou très très peu, la province en France. Mmh. Tout est centralisé sur Paris. Et il a fallu qu'on se batte pour avoir quelqu'un, nous, de notre côté, prendre quelqu'un de notre côté en indépendant qui travaille en local, les journaux régionaux, etc. Parce que c'était quelque chose qu'Universal ne faisait pas du tout, complètement abandonné.
Et au final, c'est ce travail-là qui paye.
Vraiment, moi j'ai l'impression que c'est vraiment en faisant le bouche à oreille, aller voir les petits fanzines, les radios locales, c'est vraiment ça qui est important, ouais.
Oui, rien à voir du tout. On a un collaborateur, un petit technicien à côté qui s'appelle Tim, qui doit nous écouter d'ailleurs, qui n'a pas osé venir ici. Je crois qu'on peut.
Il est fan, hein.
Oui, il aime vraiment bien, mais il n'a pas voulu venir. C'est pas grave. Il avait une question à te poser. Donc voilà, je lui ai dit que je te la transmettrai. Pourquoi avoir fait un duo avec Alice Russell, qui est une artiste soul anglaise.
Voilà, qui a travaillé avec notamment Quantic, qui est une chanteuse exceptionnelle, et puis en plus un personnage vraiment terrible, quoi. Donc moi, tout simplement, j'avais envie de bosser avec elle parce qu'il me fallait sa voix sur un des morceaux qui s'appelle Beautiful Losers, où j'avais envie d'avoir cette voix soul qui fasse écho aux voix des années 60-70, des divas un peu funk et soul. Et voilà, j'ai trouvé ça en elle. Et en plus, la rencontre humaine a été exceptionnelle parce que c'est vraiment une nana qui est excellente, quoi.
Et donc, c'est toi qui l'as contacté, tu lui as présenté un petit peu. Donc,
au culot, j'ai fait un mail, je lui ai envoyé le morceau
par mail,
j'ai réussi à choper son mail et je lui ai envoyé le morceau par mail et elle a été partante.
Bon, quoi.
Des fois, c'est facile, la musique.
Ouais, alors voilà, on en envoie 15 des mails pour avoir une réponse positive parfois, mais c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, on aurait fait ça il y a 10 ans, je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Mais on a la chance d'avoir une petite renommée, les gens commencent à nous connaître. Donc, d'autres artistes ont aussi intérêt quelque part parfois à faire des collaborations avec nous en termes de visibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi de cette manière-là. Et nous, ça nous permet de réaliser des rêves et de se faire plaisir et puis de faire de belles rencontres humaines. Donc, c'est génial.
Pour en revenir un petit peu donc, de nouveau sur un morceau du nouvel album, il y a une chanson qui s'appelle « Je voudrais savoir », qui est aussi un peu... Enfin, en tout cas, moi, qui me donne l'impression d'être totalement décalé. Je sais pas si de nouveau tu peux en faire un petit extrait, et qu'après je te pose moi des questions par rapport aux questions que toi tu poses.
Alors, c'est ce morceau-là, c'est un morceau. Ce que j'ai aimé faire dans ce titre-là, c'est passer du coq à l'âne, on va dire. C'est-à-dire des questions absurdes qu'on peut avoir en tête dans la vie de tous les jours. Alors, il y a « je voudrais savoir pourquoi la colle ne colle pas le bouchon, pourquoi le mot abréviation est un mot aussi long ».
Et vous puis, avez trouvé des réponses à ça, parce que ces questions-là, finalement, depuis que je les ai écoutées, je me les suis posées aussi.
Mais je pense que c'est des questions, on s'en fout d'avoir une réponse, c'est des questions juste absurdes. Et puis à côté de ça, j'aimais bien le côté percutant d'avoir des questions un peu plus sérieuses et profondes. Donc il y a « je voudrais savoir dire liberté en coréen et justice en tibétain ». Donc voilà, c'est des thèmes, on passe de l'absurde à quelque chose de beaucoup plus grave, on va dire. Et c'est ce que j'ai aimé faire dans ce morceau-là, c'est passer vraiment du coq à l'âne, de questions absurdes qui peuvent nous traverser l'esprit à des questions un peu plus sérieuses.
Et alors, comment on dit liberté en coréen ?
Eh ben, je sais pas, mais j'aimerais bien savoir.
On va essayer de trouver, si vous revenez tout à l'heure, on va en parler. Titus, tu veux peut-être t'enchaîner sur quelque chose ?
Non, peut-être une petite surprise pour finir. Regarde.
Et maintenant, la question à Violaine. La question à Violaine.
Nous enchaînerons avec un interlude musical.
Un interlude musical. La question à Violaine. Regarde, t'as une petite boîte qui est là. Violaine, c'est une jeune fille qui devait être avec nous puis qui n'a pas pu venir parce qu'elle a eu des problèmes perso. Et donc, alors, on lui a fait une petite chronique comme ça. Elle te pose des questions au hasard.
Alors la question que j'ai piochée, c'est la chanson que vous sifflez sous votre douche.
On l'a eu tout à l'heure déjà, celle-là, mais t'as le droit.
J'ai le droit aussi.
Ouais, t'as le droit quand même, ouais.
Bon, je vais peut-être faire deux réponses. Il y a la réponse de la putain de mélodie dont je parle dans un autre morceau, qui est ces mélodies qu'on matraque. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est René La Taupe que j'ai en tête. Donc, je sais pas si vous connaissez.
Ça
ici,
fait quoi, René La Taupe?
Bah, vas-y, tu peux le siffler peut-être, non?
C'est une voix horrible d'ordinateur, donc je vais pas la faire. Mais c'est Je suis mignon, 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 mignon. C'est une pub qui passe à la télé. Vous l'avez sûrement vu. Voilà. J'avais ça ce matin dans la tête. Et le truc que je siffle plus volontiers en tout cas c'est une nana qui s'appelle Janelle Monae et qui a un morceau qui s'appelle Tightrope. Je l'ai pas comme ça en tête la mélodie, mais c'est un super morceau et son album est pas mal non plus. Voilà.
Et bien voilà, une nouvelle artiste à découvrir donc.
Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Il paraît que vous avez fait aussi un morceau avec Fred Wesley il y a quelques temps.
Ouais, et il est là ce soir, on va même pas pouvoir le voir.
Ah bon, même pas?
Bah non, parce qu'on est en bus et on est très très loin demain, on joue très très loin dans le sud de la France, donc on doit partir tôt après notre concert, voilà.
Fred Wesley qui joue avec Abraham Inc, Sokol,
j'ai vu
ça
vidéos,
va être un,
ouais. J'ai
un
vu
moment.
Des vidéos sur internet moment, ouais. Et ça a l'air plutôt cool.
Ils vont pas tarder à arriver si t'attends un peu.
On va essayer d'aller toper Fred Wesley pour lui faire un petit coucou.
Ils vont passer dans le studio dans pas trop longtemps.
Ok.
Et on écoute ce titre alors, c'est une bonne transition, recyclée.
Yes.